vais lire d'abord Philippiens 2, des versets 1 à 11. C'est un des grands textes du Nouveau Testament, en partie parce que il y a comme un chant au milieu, probablement un cantique de l'Église primitive. Quelques-uns pensent que c'est Paul qui l'aurait composé, bon, on ne sait pas. En tout cas, dans certaines Bibles, c'est présenté comme tel, dans d'autres Bibles, on ne le voit pas. Donc c'est à partir du verset 6. Mais je vais lire d'abord du verset 1 jusqu'au verset 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'avais déjà mis « nous émerveiller de Dieu et vivre en disciple », et c'est ce que l'on va voir dans ce texte. Vivre en disciple avec l'attitude de Jésus-Christ. C'est le verset 5. Dans la traduction que je viens de vous lire, c'est « ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et je vois que certaines traductions maintenant, mais plutôt que sentiments, l'attitude, parce que ce n'est pas simplement ce qu'il ressent, c'est la façon de faire, c'est la vie. Donc, on nous appelle, en tant que disciples, de vivre avec l'attitude, une attitude identique à celle de Jésus-Christ. Alors, on va voir ce texte, mais pas dans l'ordre. D'abord, on va regarder l'attitude qui était en Jésus-Christ. Ensuite, on va revenir vers nous, comment devons-nous vivre. Et en troisième lieu, on va voir la conclusion de ce texte. Ce qui fait que d'abord, on va regarder les versets 6 à 8. Où il s'agit des étapes de l'abaissement de Jésus-Christ, de son humiliation, si on veut. Ce n'est pas tellement le mot que j'aimerais utiliser, parce que humiliation, même si dans le sens technique ça veut dire abaissement, c'est plutôt qu'il était très humble. Donc c'est ça ce que l'on voit dans ce texte. Alors, la première étape, c'est que Jésus, ce texte nous le dit, est de condition divine, existant en forme de Dieu, ou comme certaines traductions le disent, qui était de condition divine. Nous croyons à un seul Dieu, mais un Dieu qui est trinitaire. Père et Fils et Saint-Esprit, trois personnes au sein d'une même divinité. Et on y tient, même si le mot n'est pas dans le Nouveau Testament, la réalité y est. Et c'est d'autant plus important que sans la Trinité, il y a deux choses qui n'existeraient pas. Première chose, l'amour n'existerait pas, parce que Dieu est amour. Donc, avant la création de l'univers, qui aimait-il? Si c'était un amour de lui-même, c'était un amour égoïste. Mais puisqu'au sein de la Trinité, le Père aime le Fils et le Saint-Esprit, le Fils aime le Père et le Saint-Esprit aime le Père et le Fils, l'amour véritable existait au sein de la Trinité avant même la création de l'univers. Donc on peut dire que Dieu est amour et nous a créés capables d'aimer. Première chose qui en découle. La deuxième chose, c'est qu'il n'y aurait pas la possibilité de nous racheter, notre rédemption ne serait pas possible, parce qu'un seul Dieu unique, sans trois personnes, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors que le Dieu trinitaire, le Père a pu envoyer le Fils pour sacrifier à notre place et satisfaire la justice de Dieu et l'amour de Dieu qui nous permet d'être rachetés. Donc c'est toute la spécificité de la foi chrétienne que l'on ne trouve pas ailleurs. L'existence de l'amour et la possibilité du pardon. Et Jésus était donc de condition divine ou existant en forme de Dieu. Et on va voir que il n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu. Ça, c'est la traduction du Semeur. Il n'a pas regardé son égalité comme un butin à préserver, second 21, un butin. Donc, le texte que nous avons traditionnellement, c'est une proie à arracher, qui donne un peu l'impression d'une bête fauve qui a mis ses crocs, ses dents sur une victime et qui ne veut absolument pas lâcher. Jésus n'a pas fait comme cela par rapport à cette condition divine. Il a lâché une partie de cette condition divine pour s'incarner, comme on va voir, troisième étape, comme un simple homme. Donc on vient de fêter Noël, l'incarnation à Bethléem. Donc la condition divine, il n'a pas voulu, il n'a pas chercher à profiter de cette égalité, il est devenu un simple homme. Certes, il y a le mystère de l'incarnation, il n'a pas perdu toute sa divinité, mais il était quand même pleinement être humain pendant ce moment-là. Il s'est dépouillé, c'est une autre façon de le traduire, pour être un simple homme. Et quand on voit, peut-être le mot « simple » est à souligner dans le texte, parce que comme les rois mages ont cherché Jésus dans les grands palais de Jérusalem, ils n'ont pas trouvé. En fait, Jésus a vécu une vie très simple, né dans une étable, comme on le sait. Le mari de Marie était charpentier ou menuisier, selon la traduction. Donc il a grandi sans grande prétention aux honneurs de ce monde. Et il est devenu un simple homme. On peut aller encore plus bas. Non seulement un simple homme, mais il a pris la forme d'un serviteur. Donc ce n'est pas la peine que j'insiste, mais vous connaissez cette histoire où il a lavé les pieds à ses disciples. Les disciples sont regardés les uns les autres comme chiens de faïence parce que personne ne voulait s'humilier au point de faire le travail d'un serviteur. Mais Jésus a dit « Ok, moi je fais ». Mais les disciples ne sont pas plus grands que les maîtres, que le maître. Donc, il faut faire de même. Jésus a été comme un serviteur. Et ce terme revient continuellement dans le Nouveau Testament. Paul s'est appelé tout le temps un serviteur. Jésus a dit « Vous êtes mes amis, vous êtes mes serviteurs ». J'ai encore ce mot gentil, parce qu'en fait, souvent, il a dit même le mot esclave. Mais on a le choix. Esclave du péché ou esclave du Seigneur. Voilà, c'est ce qu'on préfère. Parce que cet esclavage-là, c'est la vraie liberté, parce que ça veut dire que l'on vit comme le Seigneur a voulu. Et Jésus, donc, vit sa vie de telle façon qu'il nous montre ce que c'est qu'une vraie vie humaine. Donc en forme de serviteur, donc le Dieu créateur est devenu serviteur. C'est encore aller plus loin, chaque fois en descendant d'un cran, parce qu'il a même subi la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Donc c'est dire à quel point il a connu le même sort que nous, parce que la mort, c'est le dernier ennemi, selon 1 Corinthiens, et Jésus a accepté la mort. Mais encore plus bas que la mort, encore plus bas. Il a même subi la mort sur la croix. Et c'était le pire des choses. Non pas parce que la croix, une forme de punition horrible. En notre étude biblique mardi soir, on a terminé donc l'évangile de Marc. Et on a réfléchi ensemble à cette croix et comment certains criminels étaient restés 2-3 jours sur la croix avec des souffrances extrêmes. Et Jésus s'est éteint plus rapidement, certainement en partie à cause de tout ce poids de notre péché qu'il portait. Mais dans Deutéronome 21 et le verset 13, nous lisons, verset 23, Deutéronome 21, verset 23, on dit que celui qui est pendu au bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, car tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Donc Jésus était un objet de malédiction en suivant les paroles justement de la loi de Dieu même. Et Paul l'explique dans les Galates, Galates chapitre 3, où il revient sur ce texte, au verset 10, Galates 3, verset 10, d'abord le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi a-t-il subi cette malédiction? Le verset 10 le dit. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Tout. Donc ça veut dire que une seule faute au cours de sa vie, on subit déjà la malédiction de Dieu. Donc Olivier, dans son témoignage, a dit, bon, il n'était pas un grand brigand, il n'a pas fait des hold-up de banque à Grenoble, que je sache, pendant qu'il était là. Mais chacun, quand il est devant Dieu, se rend compte qu'il est pécheur. Et à la limite, quelqu'un qui ne le croit pas, je dirais, ok, on va faire la preuve. Demain, à partir du moment où tu te lèves, jusqu'au moment où tu te couches, pas une parole déplacée, pas un acte déplacé, pas une pensée mauvaise pendant 24 heures. C'est pas possible. Donc, cette malédiction, c'est normal qu'elle tombe sur nous, parce que Dieu est saint. Mais Jésus a pris cette malédiction à notre place. Donc ce texte est absolument extraordinaire, tout l'abaissement de Jésus. Il n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu, il est devenu un simple homme, même un serviteur, il a subi la mort, même la mort sur la croix. Donc, maintenant, je reviens à ce verset 5 qui dit « Ayez en vous cette attitude qui était en Jésus-Christ. » Donc, tout ce qu'on vient de voir, Dieu nous demande d'avoir cette même attitude. Et on peut dire qu'on a toutes les raisons de vouloir vivre en disciple. Le verset 1 qui commence avec un certain nombre de « si ». S'il y a quelque consolation en Christ, oui, il y en a. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, oui, il y en a. Etc. Et j'ai bien aimé la traduction du Semeur qui dit « N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ?» Ah oui. Alors, il y a toute une suite de choses qui arrivent. D'abord le verset 2, alors « Vivez en accord les uns avec les autres. » Le texte dit, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça ne veut pas dire qu'on est formaté, que l'uniformité est de mise parmi nous, c'est pas ça. Mais la même pensée sur ce qui est essentiel. De reconnaître que ce qui nous unit est plus important que tout ce qui peut nous diviser. Parce que c'est vrai que quand on se côtoie un petit peu, on voit qu'on n'est pas parfait. Donc on a besoin de dépasser ça pour dire qu'on est unis en Christ. Et non pas parce qu'on a les mêmes opinions sur tout. Et la même pensée, c'est ça. Que nous sommes en Christ, que nous sommes sauvés par sa mort. Et donc nous lui appartenons, nous voulons vivre en tant que disciples. Donc on veut vivre en accord les uns avec les autres, ce qui demande un certain effort des fois de tourner la langue 3 fois ou 7 fois, ou je ne sais pas, un certain nombre de fois dans la bouche, selon, et de ne rien dire, d'accepter que parfois on ne comprend pas pourquoi telle ou telle personne agit de telle ou telle façon. On laisse passer, on essaie d'aller plus loin dans l'unité. Deuxième chose, on considère les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, ou plus important que nous-mêmes. Et là, c'est un énorme défi pour nous, parce qu'on est tous quelque part le centre de notre petit monde. La première chose qui vient à notre esprit devant l'événement, c'est « et moi » là-dedans, toujours. Alors que le Seigneur nous demande de sortir de la bulle de notre propre personne pour essayer de penser aux autres. Donc ça, c'est la vivre en disciple. Et même si on a tous fait un petit peu de progrès là-dedans, on essaie de penser aux autres, c'est toujours un travail continuel pour aller de plus en plus loin en considérant les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Sinon, comme ce texte nous le dit, c'est par vaine gloire, par orgueil, où on se croit plus important que les autres. Donc, devant Dieu, ce n'est pas le cas. Donc, on cherche à considérer les autres plutôt que simplement soi-même. La troisième chose, c'est de ne pas être égoïste, mais de penser aux autres, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, on pourrait parler longtemps là-dessus. Je pense que ça, c'est pas le problème. Il y aurait énormément de choses à dire, mais je sais que Jean-Claude, je crois que c'est Jean-Claude qui m'a dit une fois, je ne sais plus quelle personne avait dit: ce qui me gêne dans la Bible, ce n'est pas ce que je comprends pas, c'est ce que je comprends. C'est quoi donc? C'est Mark Twain, d'accord? C'est Mark Twain qui a dit ça. Donc, on comprend ce que ça veut dire. On comprend. Le faire, c'est autre chose. Donc, on a tous à progresser là. Et c'est pour cela que s'émerveiller de Dieu et vivre en disciple va ensemble. Parce que c'est plus on regarde vers Jésus, plus on voit comment on doit agir envers les autres. Et ce n'est pas simplement du spirituel, hein, ça peut être tout simplement quelque chose de très terre-à-terre. Hein, donc, quelqu'un a besoin qu'on fasse quelque chose, bah, on le fait sans qu'on le demande. On cherche comment je peux aider, comment je peux rendre service, en un mot, comment je peux être serviteur. Parce que Jésus a bien dit dans Marc 10, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, et n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc, la grandeur, c'est de servir les autres. Donc, on a vu l'exemple de Jésus. On a vu comment on peut vivre en disciple. Maintenant, on arrive aux deux derniers versets de ce texte, que je vais relire, les versets 9 et 10. 9 à 11. C'est pourquoi, Aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il s'agit de la résurrection, de l'ascension, la glorification de Jésus. C'est l'ensemble, il n'est pas resté au tombeau. Donc, tout à l'heure, on l'a quitté en portant la malédiction de Dieu. Mais c'est la résurrection qui prouve, en fait, que ça faisait partie du plan de Dieu. Parfois, je me suis imaginé les pharisiens ou les sacrificateurs parler aux disciples pour dire, ben voilà, vous voyez Jésus sur la croix, hein, vous connaissez comme moi, Deutéronome 21. Donc, tu vois, Pierre, avoue, tu t'es trompé, parce que si Jésus était vraiment ce Messie, il ne serait pas l'objet de la malédiction de Dieu. Hein. Bon, c'est pas grave, rentre dans les rangs, on oublie tout ça. Maintenant, peut-être les disciples, en regardant ça, ne comprenaient pas. Mais c'est la résurrection qui prouve tout le contraire. Ça faisait partie du plan de Dieu. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce texte qui dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera est un texte tiré du prophète Ésaïe, une citation de Ésaïe 45, les versets 21 et 22, et qui montre bien la divinité de Jésus. J'ai eu l'occasion de lire ce texte à des témoins de Jéhovah, par exemple, qui ne croient pas. Parce que dit Ésaïe ? Ésaïe 45, 21. Déclarez-le, faites-les venir, qui prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées, n'est-ce pas ? Moi, l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, et je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Donc que Paul prend et qu'il applique tout de suite à Jésus. Alors que ce texte d'Ésaïe dit bien, il y a un seul Dieu, c'est moi, il n'y en a pas un autre. Jésus-Christ est Seigneur. La grande affirmation des premiers chrétiens. Je termine en rappelant donc qu'il est Seigneur de l'histoire. L'histoire n'est pas absurde. L'histoire n'est pas cyclique. L'histoire va quelque chose, va vers un point décidé d'avance où Jésus sera reconnu par tous. De gré ou de force, hein, donc tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc le but de l'histoire, maintenant, pour les chrétiens, c'est que Jésus soit glorifié. L'agneau de Dieu sera immolé, sera adoré, une adoration passionnée de nous tous pendant l'éternité. C'est le but de l'histoire. Ensuite, il est le Seigneur des incroyants, parce que tout genou fléchira. Mais, malgré tout, il a la possibilité de se convertir. Et j'ai souvent dit que dans le Nouveau Testament, c'est toujours marqué Seigneur et Sauveur, et pas Sauveur et Seigneur. Parce que la première chose qu'on doit reconnaître, c'est que Jésus est le Seigneur. Donc, je reconnais mon péché et je demande à Jésus d'être mon Sauveur. Et puis, bien sûr, il est le Seigneur des chrétiens, le Maître. Et nous sommes ses apprentis, les apprenants, en français, les disciples. Donc, Jésus est à la fois le serviteur et le Seigneur. Et je propose que l'on chante un chant. J'avais pas le choix. C'était roi serviteur.